Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Vivante Église, thème de ce rendez-vous aujourd'hui, qui est l'intitulé d'une conférence présentée pendant ce grand pèlerinage international du Rosaire. Aider à vivre quand la mort prend son temps. Vous pourrez entendre dans un instant et découvrir le frère Bruno Cadoré, dominicain, docteur en médecine et en théologie. À tout de suite. Au micro, je vous l'annonçais, je reçois frère Bruno Cadoré. Bonjour frère Bruno Cadoré, donc bonjour. Dominicain, vous êtes docteur en médecine et en théologie, agrégé d'éthique biomédicale de l'Université catholique de Lille. Vous avez été prieur de la province dominicaine de France, puis maître de l'ordre prêcheur. Et vous intervenez dans ce grand pèlerinage qui rassemble près de 20 000 pèlerins, le pèlerinage du Rosaire à Lourdes, sur ce thème particulier, cette thématique qui est d'aider à vivre quand la mort prend son temps, thème d'actualité, frère Bruno Cadoré. Pourquoi la question de l'aide à mourir se pose-t-elle aujourd'hui avec autant d'insistance?
Oui, il y a sans doute beaucoup de raisons. D'abord parce que la mort, c'est dur. C'est quelque chose que nous imaginons bien, et puis nous avons des expériences. Nous voyons bien que on peut se savoir mortel, on peut être relativement serein quand tout va bien devant la mort qui vient, et puis le moment venu, c'est dur, et on peut aussi être assez près intérieurement, à accompagner quelqu'un qui voit la mort s'approcher et découvrir que c'est assez difficile, qu'on ne sait pas très bien comment parler, qu'on ne sait pas très bien comment écouter, ou qu'on parle trop vite, ou qu'on parle pas du tout. Et voilà, donc la mort, c'est difficile.
C'est un premier point.
Ça peut être difficile. Oui. Après, on dit, en l'occurrence, ces temps-ci, on parle beaucoup d'aide médicalisée à mourir. Et ça s'inscrit dans un rapport que nous avons à la vie, qui est un rapport très médicalisé à la vie. Notre vie humaine, dans nos sociétés, en tout cas, dans cette partie du monde, est constamment accompagnée par la médecine. La prévention, la préparation de la naissance, l'accompagnement de la naissance, toutes les suppléances dont nous avons besoin. Vous portez des lunettes, je porte des lunettes. Enfin, notre vie est médicalisée. Donc nous avons l'habitude, nous avons la culture plutôt, de voir en la médecine une sorte de médiation de notre rapport aux événements de l'existence qui touchent notre corps ou notre esprit. Et nous sommes habitués à l'aide médicalisée à la vie. Ce qui fait qu'il n'est pas très étonnant que la question se pose lorsque la vie approche de son terme, en tout cas de ce terme, disons, en ce temps. C'est une deuxième raison. La troisième, c'est que l'individu contemporain est de plus en plus convaincu au sens positif du terme, de sa capacité d'autonomie, donc de sa capacité de prendre des décisions pour lui-même, pour sa vie, pour les événements de son existence. Et par rapport à cela, lorsque on est dans un contexte de vie médicalisé, enfin, entendez bien, on n'est pas constamment sous l'œil des médecins, mais lorsqu'on affronte une question difficile, on s'adresse à la médecine et on pense que c'est de ce côté-là que viendra une solution raisonnable, scientifique, technique, parce que c'est aussi notre culture. Nous sommes dans ce monde-là.
Dans ce monde de progrès aussi.
Nous sommes dans ce monde-là.
Tout à fait.
Alors, tout ceci sont des explications, des propositions d'explications. Ce ne sont pas des justifications, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Par ailleurs, la médecine, pas seulement elle, et probablement pas de manière majoritaire, mais la médecine joue un rôle dans l'allongement de notre vie. De deux façons, elle joue un rôle parce qu'elle nous soigne régulièrement, parce qu'elle prévient, parce qu'elle, sans doute pas suffisamment encore, et cette dimension-là de la médecine devrait se développer encore, mais la médecine est impliquée. Mais elle est aussi impliquée parce qu'elle nous, elle nous tire d'affaires d'un certain nombre de maladies qui peuvent survenir dans notre vie et qui, sans elle, y mettraient fin. Autrement dit, nous sommes médicalement assistés d'une certaine manière, d'une assistance positive, puisqu'elle traite quelque chose, elle traite un événement grave, éventuellement, possiblement mortel, elle nous en sort. Et elle soigne.
Elle soulage.
Et donc nous vivons. Et si je fais un accident cardiaque aujourd'hui, ben, très probablement, on va réussir à appeler le SAMU, à me soigner, à me mettre un stent et je vais vivre. Autrement dit, la mort n'est pas sans implication dans ma vie. Et c'est un peu spontanément naturel qu'on se tourne vers elle en disant, mais bon, du coup, nous vivons plus longtemps. Ça n'est pas que la raison de la médecine, l'hygiène, la prévention de l'environnement, j'espère toujours davantage la promotion d'un environnement suffisamment hospitalier aux humains va continuer d'allonger le temps de la vie. Mais le temps de la vie s'allonge. Et donc, du coup, nous avons plus de temps pour affronter des maladies qui ne seraient pas survenues autrement. Et voilà encore une fois la médicalisation qui se profile. Alors, on a besoin on pense plutôt à l'aide technique, à comment ça va se terminer dans ce contexte culturel-là, et dans un contexte culturel où nous sommes habitués peut-être à une réflexion sur la vie qui est discutable. En tout cas, je pense que ça mérite notre débat, à savoir la vie est réussie quand elle évite les échecs. Et ce qui empêche de réussir la vie que l'on rêve est très spontanément vécu ou imaginé ou représenté comme un échec. Et donc, il faut sortir d'échec. Et pour sortir d'échec, il faut trouver une solution. Et pour trouver une solution, notre culture dit tournons-nous vers la science et la technique parce que c'est là qu'est la raison et la raison technique et scientifique devrait trouver une solution. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question.
Tout à fait. Alors, on touche effectivement cette problématique qui paraît parfois aussi insoluble avec les débats qui ont agité ces derniers mois. Hein. Là, j'en viens sur un débat purement aussi politique, mais qui devient sociétal et qui concerne, et là je pense, frère Bruno Cadoré, à tous les auditeurs qui vous découvrent et vous entendent dans ce Vivante Église aujourd'hui, tous les situations. Nous sommes tous concernés par... Il y a une gravité aussi dans l'aider à vivre quand la mort prend son temps, aider à vivre et aider à accompagner jusqu'au bout cette vie qui va finir un jour. Il y a bien une finalité, frère
oui.
Bruno.
Mais il y a... Alors peut-être on peut juste évoquer quelques situations, parce qu'il y a plusieurs façons de voir la mort qui prend son temps. La mort prend son temps depuis le début.
Et oui, déjà. Et puis la mort prend son temps avec aussi l'actualisation aussi de cette science qui avance. Et les soins sont donnés.
Oui, alors la mort prend son temps donc depuis le début. Et même quand on dit ça, il faut bien dire que la mort est une compagne de la vie. Et on sait bien que la vie a besoin de la mort. La sculpture du vivant, c'est que la mort de certaines cellules permet l'organisation d'autres cellules et construit les organismes. Enfin, donc la mort et vie ne sont pas des opposés. Ce sont des compagnons dans la dynamique de l'élan vital.
Et dans la dynamique de vie, ce mouvement de vie.
La dynamique de l'élan vital, il y a une sorte de danse, de compagnonnage, de doux compagnonnage finalement entre la mort et la vie. Donc ça c'est la vie. La vie est comme ça. Et un philosophe, je reviendrai sur cette image peut-être, mais un philosophe, Jean Kelevitch, disait un jour, il disait les personnes adultes, lorsqu'elles entrent dans l'âge de la grande maturité, de la vraie maturité. Vous savez, là où les petites rides apparaissent autour des yeux, qui sont assez élégantes et qui quelquefois en rajoutent à la beauté, à l'élégance. Et on s'extasie devant cela. Et Jean Clavier dit, c'est très beau, c'est très séduisant. Mais ces petites rides, c'est la mort qui vient aussi. Donc voilà, la mort et la vie sont compagnes d'existence en quelque sorte. Mais il y a plusieurs façons de voir que la mort prend son temps. C'est-à-dire, si je suis soigné pour une maladie très grave, je vais être soigné très longtemps. Et je vais être soigné. Peut-être que la maladie continuera à exister en moi, mais je vais la combattre. La médecine va m'aider, les technologies vont s'améliorer. Et donc, je sais bien que je suis porteur d'une maladie très grave, que nous combattons les médecins, les soignants et moi. Mais je sais que cette maladie, elle est une sorte finalité. D'ombre. Elle a une sorte d'ombre de la mort qui plane. C'est une autre façon de dire que la mort prend son temps. La mort prend son temps aussi lorsque je suis âgé, puis très âgé, et que très âgé, mon organisme se fatigue. Il peut être soutenu. On va soutenir un peu mon cœur, soutenir un peu ma respiration, mettre quelques prothèses.
On revient sur cette aide.
Et je suis aidé à accompagner le vieillissement de mon organisme, mais à un moment donné, arrivent les dépendances, arrivent les impossibilités, et puis un petit peu plus d'aide dont j'ai besoin, et puis ensuite un petit peu encore, et puis de plus en plus, et de plus en plus de dépendances. Et je sais bien que je suis en train de grand vieillir, pour le dire comme
c'est
ça,
joliment dit,
et que c'est la mort aussi qui s'approche. Et donc, l'homme contemporain aujourd'hui est quelqu'un qui est mis dans les conditions où il a beaucoup de temps pour voir la mort approcher.
Donc, on entend bien beaucoup de temps pour voir la mort approcher, ce qui dit beaucoup de temps pour prendre soin de s'y préparer.
Et donc, beaucoup de temps pour... Alors, on peut dire beaucoup de temps pour se préparer à cela.
Et est-ce qu'on veut s'y préparer toujours? Parce que
vous voyez bien que même si vous écoutez des personnes très âgées qui vont vous parler de la mort, elles vont vous parler aussi de la vie. C'est-à-dire, cette personne très âgée, elle vous dit qu'elle va bientôt mourir, mais que, bon, quand même, sa petite fille est en train d'attendre un bébé et que ça lui ferait bien plaisir de connaître le nom de ce bébé et si c'est un garçon ou une fille et comment il va se développer. Donc... voir approcher la mort, ça ne veut pas dire être en train de mourir, ça veut dire vivre. Et c'est la question qui m'importait dans cette conférence, c'était de dire, quel que soit le terme, et le terme n'est pas inconnu, nous le connaissons, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, nous ne savons pas...
Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure.
Voilà, mais nous savons que ça approche, et nous avons l'occasion aujourd'hui de le voir plus longtemps. Et de manière plus concrète, on voit que ce moment approche. Mais ce moment approche, la vie s'allonge, et il s'agit pour moi de vivre, apprendre à vivre avec ça.
Alors souvent, parce qu'on parle au fond de la vie, on est dans ce double mouvement, quand on vous écoute, frère Bruno Cadoré, dans le mouvement de vie et le mouvement de mort. Mais la mort, c'est aussi une réalité. Je pense à ceux et celles qui vous écoutent, qui sont peut-être dans un parcours aussi vieillissant, peut-être dans la maladie actuellement, avec des traitements lourds, dans cette préparation qui est la fin de vie en vue de la mort. La mort fait peur, mais est-ce qu'il ne se cache pas une peur bien plus grande, la crainte de la douleur, la crainte de souffrir profondément dans son être, dans son corps?
Alors oui, et comme vous le savez, mais je pense que c'est important de le rappeler, en France, depuis le milieu des années 80, les soignants, les personnes malades, les bénévoles dans le monde de la santé ont beaucoup milité pour dire il y a quelque chose qui ne colle pas bien. C'est que on est malade, on nous soigne, et quand on sait nous soigner très bien, c'est parfait. Mais il y a des situations où on nous soigne, mais on a quand même très mal, et on s'occupe pas du tout de ça. Et puis on a des faux discours sur la douleur, que la douleur c'est pas si mal que ça, qu'on sait pas faire, et donc depuis maintenant des décennies, se sont développés dans le champ de la santé, dans le champ de la médecine, de vraies connaissances, de vraies recherches pour dire comment faire pour aider les personnes à ne pas avoir mal. Comment faire pour prendre soin de la douleur. Et quand je dis prendre soin de la douleur, il faut tout de suite élargir en disant il faut aussi prendre soin de la souffrance. Parce qu'il y a la douleur physique, mais il y a la souffrance. Et la souffrance intérieure, la souffrance psychique, la souffrance spirituelle, quelquefois.
Tout à fait.
Qui se dit, mais bon, moi je suis quand même complètement démuni. Je suis complètement chrétien, je crois, mais je doute, et puis ça me fait mal de douter, et puis je suis solide, j'ai toujours été solide, mais là tout d'un coup je suis démuni et j'ai l'impression psychologiquement que je tiens pas la route. Donc toute cette souffrance globale. Cette souffrance globale, la médecine s'est convaincue, et de belle manière, me semble-t-il, de ce qu'il fallait en prendre soin, réellement. A fortiori, lorsque cette souffrance globale survenait à un moment où, après avoir été soigné d'une maladie grave, j'arrive au terme des possibilités de curabilité. Et les médecins me disent ou me font comprendre ou m'accompagnent pour que je comprenne qu'ils ne pourront pas guérir cette maladie qui est en train de m'emporter, mais ils veulent me dire une chose: dans ce en train de m'emporter, vous êtes vivant, nous allons prendre soin de votre vie et nous allons pour cela en particulier être très attentifs à tout ce qui pourrait vous mettre mal, vous faire mal, vous mettre en souffrance, de sorte que vous puissiez libérer en vous le maximum possible l'élan vital qui est le vôtre, pour vous-même, pour vos proches, voilà. Ainsi sont nés les soins palliatifs, au fond.
Et oui. Oui.
Mais les soins palliatifs, vous l'entendez bien, c'est quelque chose de très global.
Est-ce que vous pouvez donner la définition exacte, pour ceux qui vous écoutent, frère Bruno, des soins palliatifs?
Soins palliatifs,
c'est important, chaque définition compte.
Les soins palliatifs, c'est prendre soin des personnes qui sont au-delà de la curabilité d'une maladie particulièrement grave et réputée mortelle au terme, de sorte qu'on prenne soin de la douleur de ces personnes, en ayant travaillé très, très précisément, scientifiquement, les processus de la douleur et les processus d'analgésie, de traitement de la douleur, mais en voulant absolument situer cette douleur physique dans son cadre global, qui est que c'est une personne qui ressent la douleur, c'est une personne qui peut donc souffrir mentalement, psychiquement, c'est une personne qui a un entourage, lequel souffre aussi. Et c'est une personne qui a une capacité de vivre à partir de l'état concret de sa maladie. Et donc, les soins palliatifs ce sont des soins, et ce sont aussi des soins qui vont élargir leurs compétences en travaillant de manière interdisciplinaire avec toutes les compétences professionnelles qui peuvent, en se conjuguant, accompagner au mieux l'élan vital des personnes concernées.
Donc, et on parle de vie jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle.
Ceci en c'est sachant qu'à un moment improviste, à l'improviste.
Alors la fin de vie, c'est encore la vie.
La fin, oui, puisque la fin de vie, c'est la vie qui dure. Et cette vie qui dure a besoin, au fur et à mesure, d'autant plus d'accompagnement. Et je le dis de façon un peu grave, parce que, justement, les constats des années 70, c'était que, quand dans un service hospitalier, quelqu'un était à l'agonie, non pas qu'on sautait la chambre, on venait bien voir la personne, mais c'était plus difficile parce qu'on n'avait pas de solution à apporter, parce qu'on n'avait pas les mots, qu'on ne savait pas traiter la douleur, et du coup on a dû changer un peu de paradigme, changer un peu de vision, en se disant non, il faut vraiment accompagner. Plus on se met ensemble, plus on permet à la personne. On autorise en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à la personne de considérer qu'elle vit avec d'autres et qu'elle compte aux yeux des autres. Qu'elle n'est pas simplement mise au rencard, mise à part, même si c'est avec beaucoup de respect. Non, que sa vie compte pour
donc,
la vie de tous.
Il y a une dignité de la personne jusqu'au bout.
Oui.
Ça, c'est très, très... Permettez-moi de vous poser une dernière question pour cette première partie de Vivante Église. Que pourrait être une bonne mort selon les professionnels de santé, frère Bruno Cadoré?
J'espère...
La mort...
J'espère que je ne les trahirai pas. Mais les professionnels de santé, précisément parce qu'ils veulent soigner, sont des gens qui diraient qu'il n'y a pas de bonne mort. Ou plutôt, la bonne mort, c'est la mort de moi. C'est lorsque quelqu'un sait que c'est bien de lui qu'il s'agit. Et c'est bien de lui qu'il s'agit, pas isolé, c'est de lui qu'il s'agit entouré. Vous voyez, cette mort, elle peut être en colère, elle peut être en regret, elle peut être enthousiaste, elle peut être très belle, très sereine, elle peut être... peiné, tourmenté. L'important, c'est que ce soit la mort de quelqu'un qui compte pour tous.
Et au moins pour quelqu'un. Merci infiniment pour votre première intervention. Et on va donc poursuivre cette émission le temps d'une respiration, d'une plage musicale. Et je vous retrouve, frère Bruno Cadoré. Je rappelle que vous êtes dominicain, docteur en médecine, en théologie, dans un instant.
Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce magazine Vivante Église, sur ce thème « Aider à vivre quand la mort prend son temps », tel était aussi le thème de la conférence donnée pendant ce grand pèlerinage international du Rosaire. Et c'est avec vous, et merci d'avoir dit oui, de participer. Frère Bruno Cadoré, je rappelle que vous êtes docteur en médecine et en théologie, et puis frère dominicain. Alors, on pourrait effectivement parler indéfiniment cette vie qui a une finalité et qui conduit, on ne connaît ni le jour ni l'heure de cette vie qui nous est donnée. Comment l'Église, aujourd'hui, face à tous ces débats, à toutes les polémiques que nous avons connues, même sur un plan médiatique et sociétal, de nos politiques, comment l'Église doit-elle encore aujourd'hui, après le passage de la loi, se mobiliser? Frère Bruno Cadoré, et merci de nous éclairer.
Il y a plusieurs points sur lesquels je pense que ce moment sollicite l'Église. Un premier point, c'est en lien avec ce que nous disions tout à l'heure. Il y a dans le débat des opinions très contradictoires. Il y a des oppositions de ces opinions, et souvent Lorsqu'on parle de la fin de vie, souvent il y a ceux qui sont pour telle pratique, ceux qui sont pour telle autre pratique, et on affirme ses opinions, mais on ne débat pas vraiment, ou plutôt on ne converse pas vraiment. Je pense que l'Église n'échappe pas à ça. Dans l'Église, il y a aussi tout ça. Il y a ceux qui pensent comme ceci, la fin de vie, ceux qui pensent comme cela. Et il me semble que la première convocation, c'est de prendre part au débat. Ce débat nous concerne, parce qu'il concerne la vie humaine. Et que ce qui se passe dans la vie humaine se passe dans la vie humaine de l'Église, et c'est important. Il faut donc que nous prenions du temps pour débattre entre nous, pour nous écouter. Et parce que plus nous ferons ça entre nous, plus nous saurons être citoyens parmi les citoyens, invitant à la conversation, invitant à savoir écouter ce que pense l'autre, pourquoi il le pense, et ne pas essayer de lui répondre par d'autres justifications, aller jusqu'au bout, se faire écouter par l'autre jusqu'au bout, et là découvrir que en effet on est devant une situation insoluble. Vous voyez, les mêmes concepts sont utilisés. La dignité, le respect, la vie, la beauté, la liberté. Ces mêmes concepts sont utilisés de tous côtés. Oui. Ils ne sont pas mis en œuvre de la même manière. Mais peut-être qu'il nous faut nous tenir ensemble devant cette tension conceptuel, d'opinion.
Donc permettez-moi, mais dans ce débat-là, il y a une prise de risque, au fond, vous parlez aussi de cette écoute et de ces débats, il y a une intelligence du débat, il y a une intelligence aussi de la rencontre, de la conversation, de l'écoute. On a peur, en fait, de rencontrer l'autre dans sa différence.
Oui, parce qu'on se demande toujours si on ne va pas se compromettre avec d'autres idées qui vont distordre nos propres idées. Mais quand on converse, on crée l'humanité. On contribue à ce que l'humanité devienne ce qu'elle est.
Donc fécondité de cette humanité, qu'elle grandisse, qu'elle nourrisse.
Paul VI lui-même disait au cœur du Concile, dans sa première encyclique, Ecclesiam Suam, Paul VI disait « L'Église doit se faire dialogue, elle doit se faire conversation. » Pas seulement pour être en conversation à l'intérieur d'elle-même, mais parce qu'en étant conversation à l'intérieur d'elle-même, elle s'ouvre à inviter tous à la conversation.
On perçoit bien aussi, permettez-moi, mais qu'il y a l'agitation dans les débats. Il n'y a qu'à voir aussi dans les périodes électorales ces débats politiques ou sur des plateaux télé, on s'agite et le débat n'a pas lieu parce que la parole n'est pas entendue, parce qu'on ne s'écoute pas.
Oui, mais vous voyez bien que même
stérilité
dans ces débats agités plutôt qu'animés, ils sont agités.
Oui, agités.
Et dans ces débats
parfois
agités,
au fond,
très vite, la parole devient violente.
Tout à fait.
Pourquoi ? Parce que ça, c'est un autre philosophe qui me tient à cœur, qui est Emmanuel Levinas. Il dit il y a des problèmes insolubles. Ces problèmes insolubles, c'est souvent parce que les tensions sont telles qu'elles essaient de recouvrir des violences rentrées. On cherche à trouver la solution définitive, universelle, pour ce qui semble être insoluble. Alors que la maturité, c'est de dire, mais nous sommes ensemble devant un problème que ni vous, ni moi, ne pouvons résoudre définitivement. Et il faut prendre le temps de se tenir ensemble devant l'insoluble apparent, parce que si on va trop vite à une solution, les violences qui étaient cachées ressortent. Il n'y a qu'à voir tous les débats politiques auxquels on a assisté ces derniers temps. Ça commence toujours tranquillement, je suis de cet avis. Tout d'un coup, quelqu'un coupe la conversation. Et donc, le ton monte, et les arguments perdent leur valeur, et l'écoute disparaît. Et il n'y a plus de débat. Il y a une exposition contradictoire d'opinions. Mais l'humanité est faite pour avancer ensemble.
Et donc, différence.
Bien sûr que nous sommes différents, et nous avons des opinions différentes, et peut-être que nous aurons des pratiques différentes. Mais l'important, c'est que notre humanité n'est pas différente. Alors ça, c'est le premier point qui est nécessaire à développer. Dans notre Église, nous devons le faire. Nous devons le faire. Je me souviens d'un évêque c'était l'évêque d'Amiens, Monseigneur Noyer, au temps où les diocèses commençaient à faire des synodes. Ça fait longtemps.
Ouais.
C'était dans les années 90. Et Monseigneur Noyer avait dit, j'ai pas très envie de faire un synode sur la vie de l'Église. En revanche, j'aimerais animer, convoquer un synode dans mon diocèse où je demande aux croyants de mon diocèse, aux croyants catholiques de mon diocèse, d'entrer en lien avec tous leurs voisins, tous leurs amis, croyants ou non-croyants, et nous allons, pendant ce temps synodal, parler ensemble de la santé. Parce que la santé concerne tout le monde, que nous avons des opinions différentes sur cela, mais que c'est comme cela que nous allons créer quelque chose qui avance vers l'unité. Magnifique expérience.
Ah oui, oui, et donc, puis, et rencontre magnifique.
Le premier point, c'est cette conversation. Le deuxième point, c'est que dans l'Église, nous tenons ensemble deux trésors précieux qui sont... Nous sommes libérés par le Christ pour être libres. Autrement dit, le Christ, par sa vie donnée, nous désaliène de la propension que nous avons en nous de faire le contraire de ce qu'on voudrait faire pour faire bien. Il nous désaliène du mal. Nous sommes libérés pour ça. Mais nous sommes libérés pour devenir libres. Nous ne sommes pas libres une fois pour toutes. Nous devons devenir libres, devenir autonomes. Mais cette autonomie, cette capacité que j'ai de bâtir mon chemin, de grandir moi-même, de faire mes choix, cette capacité-là, je l'ai au sein d'une communion. C'est-à-dire que ma foi n'est pas une foi privée, c'est une foi partagée. Je vis avec d'autres croyants. Et ces autres croyants m'aident à croire. Comme réciproquement.
Donc vous parlez de ce grand corps de l'Église, voilà, dans sa diversité et ses membres.
Et ce corps, il est divers.
Et oui.
Il est divers. Il est un et divers.
Oui.
Et ça, notre confession nous fait tenir ensemble toujours une autonomie extrêmement grande, extrêmement précieuse, jamais déliée de la communion vers laquelle nous voulons aller. Or, aujourd'hui...
Vers laquelle nous voulons aller.
Vers laquelle nous voulons aller, parce que c'est ça la promesse du Christ. Nous allons là. Nous allons là avec lui. Et alors, dans nos sociétés, tout se passe comme si... on établissait une disjonction entre ma liberté autonome, d'un côté, ça c'est mon affaire, et la communauté humaine à laquelle je participe, mais c'est autre chose. Du coup, on revendique des droits de l'individu ou du collectif qui sont comme séparés. Or, précisément, ces droits ne sont pas séparés, ils sont reliés. Et nous confessons que ma destinée est intrinsèquement liée à la destinée de tous, puisque nous suivons celui qui a dit que la destinée de tous était la sienne. Donc, et qui nous donnait la vie pour ça. Ça, c'est le deuxième point qui est très important dans notre Église. Et il est très important parce qu'il nous permet de nous aider à regarder la vie avec cette espèce de regard qui est la vie de chacun, et la vie de chacun est extrêmement digne, et la vie de tous est aussi extrêmement digne. Et la vie de chacun est une vie qui avance vers l'épuisement de sa réalité charnelle, c'est ce que nous éprouvons tous les jours, plus ou moins, mais que en partageant la foi avec d'autres et en la recevant d'autres avant nous, nous découvrons que cette vie-là que nous menons dans notre condition singulière d'humanité, cette vie-là est portée par la vie donnée qui nous rend libres et nous promet la communion, qui est plus grande, plus forte, plus belle que la vie que nous expérimentons dans notre vie singulière. Ça, c'est la vie de celui qui vient conjoindre sa vie à la nôtre. Lorsque saint Paul dit « Nous sommes tous ressuscités », il ne dit pas « Nous allons tous ressusciter ». Il dit « Nous sommes tous ressuscités, nous sommes tous habités par cette vie ». Et il faut s'aider mutuellement à découvrir que derrière la vie que nous expérimentons, avec ses beautés, mais aussi ses fragilités, avec ses enthousiasmes et puis ses échecs, cette vie n'est pas réductible à elle-même. Elle est habitée par autre chose, par la vie qui nous est donnée. Vous me ferez penser à ça, une de mes grandes amies est conteuse, et alors j'ai raconté ça hier, et c'est une vieille dame, et elle raconte des histoires à des petits-enfants, et un jour un petit garçon lui dit, mais tu vas mourir toi aussi, et alors elle dit, pourquoi tu me dis ça, et il lui dit, parce que tu commences à être très vieille. Et alors elle dit, mais comment tu vois ça? Et il lui caresse la joue et il dit, parce que tu as beaucoup de chemin sur tes joues.
Oh, c'est joli.
Et ces chemins-là sont des chemins de la vie qui va. Et notre regard sur la vie, si je peux le dire, c'est un peu rapidement dit, mais oui. Notre regard sur la vie, quand on voit ça, on voit que c'est la vie qui fait sa route d'humanité. Et avec cette route d'humanité, c'est une vie d'humanité qui va vers Dieu, qui est portée par la vie donnée par Dieu, cette vie ressuscitée qui nous conduit vers lui. Dans ce contexte-là, les sociétés humaines mettent en place un mandat de soins. Les sociétés humaines, croyantes ou non croyantes, considèrent que aider l'humanité à ne pas périr est une des grandeurs de l'homme. Aider l'humain à ne pas croire qu'il est seul est une grandeur de l'homme. Aider l'humain à ne pas périr dans la douleur est une grandeur de l'homme. C'est devenir humain que d'aider l'humain. Et le mandat de soin s'inscrit dans cette attitude-là, dans une attitude de confiance mutuelle. De confiance mutuelle. Vous voyez, c'est pas rien, de confiance mutuelle en cela que nous sommes forts d'humanité. Et le mandat de soin, c'est cela. Et ce mandat de soin, il ne faut pas le tordre. Il ne faut pas le distordre. Et je pense que c'est extrêmement important pour l'avenir de l'humanité. Du coup, tout ce que j'ai dit là me semble inviter les croyants à ne pas avoir peur de prendre part pleinement dans les débats citoyens en apportant leur propre expérience, leurs propres opinions, leurs propres arguments, pas en disant que parce que ce sont leurs arguments chrétiens et catholiques, ils ont raison, en disant c'est nous, avec ces opinions, que nous souhaitons devenir humains avec vous tous.
Permettez-moi, vous pensez parfois que les catholiques dont vous parlez, peut-être certains vous écoutent et certainement aujourd'hui, sont maladroits concernant ce débat autour de la vie, de la fin de vie et des lois.
Ils sont comme tout le monde.
Ils sont comme tout le monde.
Ils sont comme tout le monde. Peu de choses, finalement. On ne sait pas dire, on ne sait pas faire.
On ne sait pas écouter.
On ne sait pas écouter très bien.
On ne sait pas débattre, au fond. Hein.
Pas vraiment.
On n'est pas forcément meilleur.
Et puis on ne sait pas durer. Et tout ça, c'est difficile. Mais
qu'est-ce que vous entendez par durer? On ne sait pas durer.
Parce que, vous voyez, quand on accompagne, le grand mot qui vient, c'est qu'on accompagne parce qu'au fond, nous sommes non seulement humains, mais promis à être frères ensemble. Mais la fraternité, c'est pas un principe que j'écris au tableau là-haut dans le ciel et qui, parce qu'il est très fort, descend et se réalise. La fraternité, c'est un combat. Il faut apprendre à devenir frère. Il faut s'apprendre mutuellement à ce que la vie de l'autre compte pour moi.
Oui, qu'elle est du prêt à mes yeux.
Vous voyez, mais ça s'apprend. Et on a besoin d'être ensemble pour apprendre ça, parce que sinon, on ne sait pas faire tout seul. Je terminerai bien comme ça, le pèlerinage du Rosaire, fin, comme tous les pèlerinages qui viennent à
Lourdes. Vous aurez écouté un peu plus.
Une des beautés d'un pèlerinage, c'est que ce sont des croyants qui viennent tous avec leur force de croire et leur faiblesse de croire, et qui disent, mettons-nous ensemble, nous avons besoin les uns des autres pour oser prendre le temps de devenir humain et ainsi oser prendre le temps de devenir frère.
C'est une belle conclusion. Merci infiniment, frère Bruno Cadoré, sur cette intervention. C'est quelques paroles. Voilà.
Merci de votre invitation.
Nous allons pouvoir peut-être méditer aussi, trouver du sens au débat peut-être. Nous corriger, pourquoi pas, réfléchir aussi à la rencontre de l'autre, sans, avec cette justesse aussi, et cette stature aussi d'écoute. Hein, donc, certainement un peu de maturité, un peu de sagesse, de patience.
Et d'espérance.
Et d'espérance, oui. Et on le sait ô combien, frère Benoît Cadoré, notre monde a besoin d'espérance plus que jamais. Donc, restons debout, levons-nous, écoutons. Et puis, soyons donc vigilants les uns envers les autres et prenons soin de notre prochain, celui qui est à nos côtés. Merci.
Merci beaucoup.